Bonsoir. 9 ans après Rue Dreyfus, le Parti Socialiste remet la main sur les assurances sociales. C'est une relative surprise à Berne. Didier Burkhalter quitte le département de l'Intérieur, il s'en va aux affaires étrangères. Le nouvel élu socialiste Alain Berset devra gérer les primes maladie, les retraites ou encore l'assurance invalidité. À droite, on s'inquiète parfois de voir ces dossiers cruciaux passer aux mains de la gauche. Le libéral Burkhalter quitte un département encore en chantier, 2 ans après son arrivée. Avec nos invités politiques, les analyses de nos correspondants à Berne, on va évaluer les conséquences de cette rocade sur nos assurances sociales et sur la politique étrangère de l'après-Calmiré. En Suisse, la tempête Joachim a causé quelques dégâts mineurs. Aujourd'hui, les toits ont souffert. Un train a déraillé dans le Jura bernois. On fait le bilan de cette journée très venteuse avec Gaël Klein et le spécialiste météo Lionel Fontana. À 18h20, on se penchera sur l'état des transports publics genevois. On va essayer de trancher entre deux hypothèses. Le nouveau système de circulation des trams est-il un vrai fiasco, mal préparé, mal organisé? Ou alors, deuxième hypothèse, les genevois sont d'incorrigibles râleurs. Le PDC Vincent Maître viendra défendre la première hypothèse. Il propose même d'offrir la gratuité des transports publics aux genevois durant un mois. Face à lui, le vert Christian Bavarel défend ce nouveau système qui a besoin d'un peu de temps pour se mettre en place. Ils débattent avec nous à 18h25. Un certain Uli Windisch s'est invité dans la reprise de la Basler Zeitung, le journal qui est passé dans l'orbite de Christophe Blocher. Le sociologue genevois est à l'organigramme de ce nouveau groupe. Il figure aussi son projet de site internet d'information. Uli Windisch va enfin pouvoir lancer tout prochainement son nouveau média d'opinion en Suisse romande. Le récit de Mathieu Cuplin, c'est tout à l'heure dans ce forum. À 18h30, on va se demander s'il est aussi altruiste que cela, le combat des librairies Payot contre les diffuseurs. Le patron de Payot veut apporter directement de France des livres à meilleur prix. Louable intention a priori, mais qui cache peut-être quelques arrière-pensées. On va en parler avec un éditeur et diffuseur aussi, Ivan Slatkin, en direct dans une vingtaine de minutes. On parlera de l'influence du libre-échange sur les famines dans ce forum. Avec nous, le successeur de Jean Ziegler au poste de rapporteur de l'ONU pour l'alimentation, Olivier De Scooter. Il était à Genève aujourd'hui à la rencontre de l'Organisation mondiale du commerce. Il ne mâche pas ses mots contre la direction de l'OMC. On entendra aussi un entretien avec le fils du dernier chah d'Iran. Il porte plainte à l'ONU contre les mollahs iraniens pour crimes contre l'humanité. Enfin, cette histoire que nous racontera Magali Philippe et qui ne rassure pas sur la fiabilité de nos services de police fédéraux. Un citoyen neuchâtelois qui avait commandé un passeport en a reçu 2, avec à chaque fois 2 photos différentes. Le récit de Magali Philippe, c'est dans quelques minutes. Après la tempête, la neige et le froid, il fera 3 degrés maximum demain. La météo de Sébastien Dupéré à la fin de ce forum.
Forum, Philippe Reva, Laurent Keller.
La tempête Joachim a traversé toute la Suisse ce vendredi avec des rafales dépassant parfois les 176 km/h au Sentis à 2500 mètres d'altitude. En Suisse romande, on ne compte plus les arbres arrachés, les tuiles envolées, les caves inondées, les routes fermées. Mais c'est surtout le nord-ouest du pays, à savoir le Jura historique, qui a été particulièrement touché par la tempête avec des pointes à 174 km/h au Chasseral, 122 à Failly, 106 à Delémont. On déplore 9 blessés, plus ou moins touchés. Le premier incident sérieux de la journée aurait été le déraillement d'un train des chemins de fer du Jura, Gaël Klein.
Oui, c'était ce matin entre Tavannes et Tramelan, un déraillement dû à la chute d'un sapin sur la voie. Il y a eu 3 blessés légers, 10 de personnes choquées. Le montant des dégâts avoisine au total 1,5 million de francs. La liaison entre les 2 localités sera assurée par un service de bus jusqu'à mercredi, le temps de la remise en état de la voie ferrée. 2 autres liaisons ferroviaires ont aussi été perturbées ce matin, tout comme la circulation sur l'autoroute A16 à hauteur du contournement de Moutier. Toujours dans le Jura bernois, un homme a été légèrement blessé en fin de matinée à Champeau suite à la chute d'un arbre sur sa voiture. Le même type d'accident est survenu cet après-midi en Ajoie, dans le Jura, où 2 personnes ont été grièvement blessées par la chute d'un arbre sur leur véhicule. En Ajoie, ou comme dans le district de Lémont et surtout le Valterbie, de très nombreuses toitures ont été endommagées. À Courandelin, par exemple, où les pompiers ont dû évacuer les locataires d'un immeuble dont le toit a été en partie arraché par le vent. Ses occupants ont dû être relogés. Une personne a aussi été légèrement blessée à la tête par une tuile à Porrentruy, où la patinoire a souffert de la tempête. Une partie de ses façades en plexiglas s'est envolée. L'établissement cantonal d'assurance à Seignelay-Gier, qui assure l'ensemble des bâtiments dans le canton du Jura, a reçu aujourd'hui plus d'une centaine d'appels, ce qui veut dire au moins plusieurs centaines de sinistres, selon son directeur. Et puis Joachim a aussi balayé le Lophonais. Là aussi, les dégâts sont considérables, sans qu'ils ne puissent encore être chiffrés. De nombreuses routes ont été coupées. On déplore aussi 2 blessés en raison des intempéries. Un chauffeur de camion victime d'un accident de la route et une personne âgée tombée tombée dans le Rhin en tentant de remettre une bâche de protection sur un bateau.
Merci Gaël Klein, en direct de Dolémont.
Avec nous Lionel Fontana, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes prévisionniste à Météo Suisse. Alors d'abord cette tempête, est-ce que, bon, c'est toujours ce qu'on demande aux prévisionnistes, est-ce qu'elle était fidèle à vos prévisions, est-ce que vous vous attendiez ?
Oui, en fait, aussi bien en intensité qu'en horaire de la prévision, elle s'est développée selon le schéma prévu. Nous avions donc fait un avis de degré 4 pour le nord du pays, avec des rafales pouvant dépasser les 110 km/h, et sur les autres régions plus au sud, avec des rafales, disons, de degré 3 qui pouvaient aller entre 90 et 110. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Donc, on a eu dans les toutes dernières heures, dans la dernière heure même, à Crécy, des rafales de 132 km/h. Ça, c'était avec l'arrivée d'air polaire. On craignait effectivement d'avoir, après le premier front de rafales lié à la dépression elle-même, c'était l'arrivée d'air polaire, donc qui subitement s'écoule sur le plateau, qui pouvait donner des rafales supplémentaires. C'est en train de se produire maintenant. C'était le deuxième pic, et après ça, ça va aller en s'atténuant peu à peu. Il y aura encore des rafales, mais pas du même ordre.
Avis de niveau 4, c'est l'avant-dernier stade, hein, en quelque sorte, c'est pas encore le maximum. Ça valait ça.
Ah oui, tout à fait, puisque le critère est très clair, c'est plus de 110 km/h. Donc on a eu 121, pratiquement 122 à Failly, 132 à Crécier, je peux énumérer beaucoup de stations, on a eu ces valeurs, on a eu 113 km/h à Fribourg-Pozieux, par exemple, sans parler évidemment des stations de montagne, où là on avait, disons, fait un degré 3, c'est-à-dire pour des rafales avoisinant les 150 km/h, pouvant les dépasser. On a eu donc les 174 à Chasseral, par exemple, voilà, donc ce type de rafale était vraiment correspondait à la prévision.
Mais on peut dire que la tempête, le gros de la tempête, n'est pas passé directement par-dessus la Suisse, plutôt à côté. D'autres pays ont été plus touchés.
Non, alors, toute l'Europe centrale était concernée. Donc hier, toutes les météos nationales, disons, sur la trajectoire de cette tempête, avaient des avertissements en cours. Et d'autres pays ont été touchés, la France, l'Allemagne. Donc nous étions vraiment dans le couloir même de cette dépression tempétueuse.
Lionel Fontana, demain, qu'est-ce qui nous attend ? La neige, c'est ça ?
Oui, donc maintenant l'air polaire arrive, il va avoir un régime d'averses de neige, de giboulées, parfois assez fortes déjà cette nuit. Ce sont des averses qui ne durent pas longtemps, mais qui peuvent, sur des tronçons routiers, donner de gros flocons avec des rafales. On peut avoir une neige qui tient au sol, partiellement en tout cas. Donc des conditions qui peuvent commencer à devenir difficiles sur le réseau routier. Bon, c'était déjà le cas en Valais, mais pour d'autres raisons. Et puis à mentionner qu'il y a toujours un avis de forte chute de neige en cours. Donc depuis le 13, nous avons envoyé un avis pour d'abondantes chutes de neige en 3 jours. On a par endroit 80 cm à plus d'un mètre de neige, plus d'un mètre de neige sur les Alpes romandes. Il va continuer de neiger, c'est-à-dire que sur le front de la neige, et bien sûr des avalanches, ce n'est pas terminé.
Si on doit prendre l'avion demain à Genève, Lionel Fontana, on s'inquiète ?
Non, je dirais que demain, ça devrait aller pour l'aéroport. Évidemment que les averses de neige qui peuvent transiter peuvent, disons, momentanément, disons, chahuter un peu quelques horaires. À mon avis, il n'y a pas grand chose d'inquiétant pour l'instant. En revanche, entre samedi et dimanche, on va avoir des trains, d'averses de neige qui peuvent, occasionner des problèmes, pas simplement en Suisse, mais à d'autres endroits en Europe. Et là, les retards peuvent venir d'autres aéroports où la neige pourrait évidemment tomber sur les tarmacs.
Merci beaucoup Lionel Fontana pour vos lumières ce soir en direct. Une bonne soirée à vous.
Bonne soirée, merci.
Infotrafic RSR.
Suite à une surcharge de trafic, de forts ralentissements sont signalés sur l'autoroute Vevey-Martigny entre B et Saint-Maurice en direction du Valais.
En politique, les assurances sociales et la santé repassent en main socialiste. Le nouveau conseiller fédéral Alain Berset reprend le département de l'intérieur. Didier Burkhalter, lui, dirigera les affaires étrangères. Avec l'intérieur, le Parti socialiste retrouve un département clé qu'il a dirigé par deux fois ces 50 dernières années, avec le balois Hans-Peter Tschudi et la genevoise Ruth Dreyfus de 1993 à 2002. Un dicastère crucial, mais la tâche d'Alain Berset pourrait s'avérer ardue. Christelle de Mangeau.
Et oui, déjà parce qu'il devra rapidement affronter ses camarades socialistes devant les urnes. Le référendum sur les réseaux de soins a de bonnes chances d'aboutir et le Parti Socialiste a décidé le 3 décembre dernier de le soutenir. Et puis, il y a aussi l'initiative pour la caisse maladie publique, l'un des arguments mis en avant par le Parti Socialiste lors de la dernière campagne électorale. Dans ces deux votations très prochaines, le nouveau ministre de la Santé sera en porte-à-faux avec son parti. Et puis Alain Berset hérite aussi d'un département de l'intérieur en chantier. Le passage de Didier Burkhalter aura été une sorte de parenthèse de 2 ans pendant lesquelles les relations entre partenaires sociaux se sont un peu apaisées après des années Pascal Couchepin marquées par des tensions. Mais les grandes réformes restent à venir.
Et notamment celle de la réforme des retraites qui sera un gros chantier de la législature.
On attend pour début janvier le rapport sur le deuxième pilier et on sait la situation très tendue, les réformes quasi inévitables. On parle de mettre à contribution les rentiers alors que les perspectives des marchés financiers sont mauvaises. Et l'un des plus grands succès électoraux de la gauche lors de la dernière législature, c'est justement l'échec de la baisse du taux de conversion du deuxième pilier. Et puis il y a le gros morceau de l'AVS après l'échec de la 11e révision il y a 1 an, coulé par le Parti Socialiste notamment. Ce sera donc à Alain Berset de remettre l'ouvrage sur le métier et traiter la très délicate question de l'âge de la retraite, notamment la retraite des femmes. Et puis Alain Berset devra aussi faire passer un nouveau durcissement de l'assurance invalidité. Et là aussi, la gauche a déjà en promis le référendum si le projet va trop loin.
Merci Christelle Demangeau, en direct de Berne.
3 invités avec nous pour évaluer ces changements à Berne. Jean-François Steyert pour les socialistes, Guy Parmelin pour l'UDC et Christian Luchère pour les libéraux radicaux. Jean-François Steyert, c'est un peu le cadeau empoisonné pour Alain Berset. Christelle Demangeau nous a fait le tableau. On dirait presque qu'on n'aimerait pas être à sa place.
Bon, en même temps, si le conseiller fédéral le plus jeune des dernières années prend dès le début le département le plus aisé, le plus calme, je pense que ça ne répondrait pas aux attentes. C'est évidemment un département difficile, un département complexe avec des dossiers qui sont chauds. Je pense que les attentes sont extrêmement grandes, mais qu'à l'inverse, il y a les capacités pour essayer de les affronter. Il y a des risques, mais aussi des chances pour avoir quelqu'un qui a les capacités d'essayer de faire avancer les dossiers dans le sens des idées pour lesquelles il a été élu.
C'était important pour le socialiste Jean-François Steyert. On lisait Christian Levra sur Twitter hein, qui disait « excellente journée ». Il a passé une bonne journée aujourd'hui, manifestement, grâce à ça. C'était important de remettre la main, en quelque sorte, sur les assurances sociales. C'est pour faire quoi? Bloquer les projets de réforme de la droite, empêcher qu'on remonte l'âge de la retraite, c'est un peu ça?
Je pense pas qu'il s'agit simplement d'empêcher. Je crois que les fronts politiques ne sont pas aussi clairs que ça. On sait que sur l'AVS, par exemple, on peut soit envisager l'AVS tout seul, soit essayer d'envisager les choses de manière plus générale, l'AVS deuxième pilier. Et dans ce contexte-là, on a au Parlement fédéral des constellations qui ne sont pas aussi clairement que ce qu'on le pense, des constellations complètement bloquées gauche-droite. Il s'agirait d'essayer de trouver les forces un peu constructives, qui essaient de trouver des solutions qui vont de l'avant, qui sont peut-être pas celles qu'on a connues jusqu'à présent, qui sont plus flexibles, si on pense par exemple à l'âge de la retraite. Je pense qu'Alain Berset, comme économiste notamment, a toutes les compétences pour essayer de désidéologiser un tout petit peu les conflits et trouver des choses intéressantes dans le sens d'idées d'une Suisse plus sociale. L'idée d'une Suisse plus sociale n'est pas simplement l'idée du Parti Socialiste, elle est partagée aussi par des élus d'autre bord.
Guy Parmelin, comment est-ce que vous, l'UDC, vous voyez ce remplacement aux assurances sociales d'un libéral radical par un socialiste?
Écoutez, je vous donne ma position personnelle, on n'a pas eu le temps d'en discuter naturellement au sein du parti. Moi, je dois dire que j'ai été surpris, dans un premier temps, déçu, ça je dois le dire, et même un peu fâché quand je regarde en plus la manière dont se sont répartis les dicastères. On constate en plus qu'à la suppléance, c'est Mme Sommaruga qui elle aussi est socialiste. Donc on peut dire, je soupçonne presque, je dirais, la gauche d'avoir pactisé avec d'autres partis, dont celui de Mme Widmer-Schlumpf, en disant donnant, on vous sauve, mais le moment venu, vous nous confierez ce département. Maintenant, on va voir ce qui va se passer. Je crois que M. Steyert et l'analyse de Mme Demange sont très pertinents. On a des gros dossiers qui devront être traités dans l'intérêt général de tous. Et ce que je regrette avec le départ de M. Burkhalter, c'est qu'on a ce dossier du managed care qui doit passer devant le peuple. Il a mis en route certains dossiers, mais finalement, quelque part, j'ai l'impression qu'il se défile au moment où on doit mettre les mains dans le cambouis, travailler pour l'intérêt général et venir construire des majorités au niveau du Conseil fédéral, mais aussi du Parlement et après du peuple. Alors on verra comment Alain Berset empoignera ce dossier. Je crois que les faits sont têtus. On va très vite être rattrapé par la réalité des choses. Et le premier signe important, ça sera le traitement de ce fameux rapport sur le deuxième pilier qui va nous amener aussi à avoir non seulement une image d'ensemble du deuxième pilier, mais qui aura inévitablement des conséquences sur l'AVS, puisque puisqu'on annonce en mi-2013 un projet de 12e révision de l'AVS consultation.
Les dossiers ne manquent pas pour Alain Berset. Christian Luchaire, vous avez entendu Guy Parmelin, il s'est défilé, votre ministre Didier Burkhalter, manifestement 2 ans à peine après son entrée, il quitte le navire.
Bon, la première chose que j'aimerais dire, c'est que je ne pense pas qu'il y ait eu un accord entre les partis, même si M. Parmelin, à juste titre, ne nous soupçonne pas d'en avoir fait le cas échéant parti. Je crois véritablement que la répartition...
Non, je crois qu'il vous en soupçonne, Christian Luchaire.
Non, je ne crois pas. Vous
soupçonnez les libéraux radicaux, Guy
Parmelin ? Non, je plutôt au PDC et au PPD.
Voilà, d'accord. C'est cela. Donc, n'étant pas soupçonné, je peux néanmoins dire que je ne pense pas que ce soit le cas. Je crois que la répartition des dicastères est faite entre ministres et non pas entre partis, et donc la décision incombe véritablement à ceux...
Ça, c'est pour l'accord.
Première chose. Deuxième chose, moi, j'aimerais bien être à la place d'Alain Berset aujourd'hui, parce que finalement, il hérite d'un département dans lequel Didier Burkhalter a mis beaucoup d'ordre. Il a assuré la pérennité de nos assurances sociales, il a pris des mesures pour prévenir une augmentation des coûts de la santé... Dans le domaine de la culture et de la formation, Didier Burkhalter a initié aussi beaucoup de réformes. Donc, je veux dire, il peut partir le cœur léger et l'esprit satisfait, parce que je crois véritablement qu'il a entrepris les mesures, que Alain Berset, qui effectivement est une personne plutôt consensuelle, est un économiste, et il sera, lui, confronté à la réalité.
Il a pu qu'en récolter les fruits, en quelque sorte.
Devra continuer. Et puis, évidemment, alors, pour les affaires étrangères, je saute de joie. Vous ne pouvez pas le voir.
Alors ça, on va en parler tout à l'heure, les affaires étrangères.
Je suis évidemment extrêmement heureux que Didier Burkhalter et les affaires étrangères, mais je prends note, nous en parlerons plus tard.
On va en parler juste d'ici quelques minutes. Jean-François Steyert, il n'y a plus rien à faire à Alain Berset. Tout a été préparé par Didier Burkhalter, qui lui laisse la place, comme ça, après 2 ans. Vous partagez l'analyse? Jean-François Steyert, non?
Je fais rire mon collègue. Non.
Reprenez-vous, Jean-François Steyert.
Bon, il y a des dossiers. Je pense que Didier Burkhalter est quelqu'un qui a pris les dossiers à fond, qui a mené les discussions d'une manière extrêmement large. Il a entamé un certain nombre de dossiers dans le domaine de la santé, dont la votation sur les soins intégrés qui devrait être soumise à la population d'ici l'été prochain. Il a commencé des discussions sur l'AVS. Je pense que ce qu'il a fait est intéressant, mais il a commencé à semer un certain nombre de choses. Il y a maintenant un travail relativement important à soigner. Je pense qu'on est très 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 loin du but, qu'il y a un très gros travail devant soi. Les gens qui reprochent à Didier Burkhalter de n'avoir rien fait, à mon avis, n'ont pas vu son travail en profondeur. Par contre, c'est vrai qu'après 1 an et demi, 2 ans, après une période relativement courte, les fruits sont loin d'être là. Il y a pas simplement de travail à faire pour y arriver. En même temps, je pense que, contrairement à ce qui a pu être le cas pour certains ministres dans ce domaine-là par le passé, vouloir avancer en faisant des décrets tous les 3 mois de manière catégorique et arbitraire n'est certainement pas la bonne solution. Dans un domaine où les intérêts sont extrêmement variés, divergents, où la géométrie politique est variable, il faut parfois savoir faire preuve d'un tout petit peu de patience. Je pense qu'Alain Berset ne pourra pas non plus, en 3 mois ou en 6 mois, résoudre l'ensemble des problèmes de l'AVS, de la santé, du deuxième pilier. Ça prendra un tout petit peu de temps. Je préfère des gens qui avancent un tout petit peu plus lentement, mais qui le font avec assurance, qui s'assurent des majorités suffisantes pour aller dans la bonne direction, plutôt que des gens qui font des grands coups et où ensuite en votation populaire, on se retrouve au point zéro.
Guy Parmelin, il y avait les alliances contre nature souvent dans ce dossier, les assurances sociales, on appelle ça alliance contre nature, alors c'est un nom comme un autre, mais socialiste UDC ensemble pour faire capoter un projet. Et là, c'est assez bien joué si on veut bien d'une partie de la droite ou du centre droit, parce que les socialistes seront avec les réformes et puis il n'y aura plus que l'UDC seul pour essayer de contester.
Écoutez, il faudra voir de quel sens vont les réformes. Je le répète, les faits sont têtus. Le vieillissement de la population, la chute des marchés financiers comme ce qu'on appelle le troisième cotisant en matière de deuxième pilier va inévitablement nous obliger, qu'on soit de droite ou de gauche, à revoir le niveau des prestations. Le but qu'on devra avoir, si on prend simplement tout le système des retraites, c'est de respecter le but constitutionnel qu'on a un peu de peine actuellement à respecter, de 60% du dernier revenu, mais ça impliquera peut-être à certains niveaux des révisions déchirantes. Et c'est pas pour rien que Mme Colette-Nova tire la sonnette d'alarme depuis quelques temps, parce qu'il y a urgence, en tout cas, en ce qui concerne le deuxième pilier, qu'on soit M. Burkhalter ou M. Berset, quand les faits sont là, il faudra prendre des mesures. Elles ne seront peut-être pas nécessairement populaires, mais elles doivent aller dans l'intérêt de tous et surtout pour maintenir ce système, parce que ce système nous est envié par tous. Simplement, on avait pris l'habitude avec le deuxième pilier, quelque part, de s'enrichir enrichir et on a utilisé et on a inventé des nouvelles prestations, alors qu'à l'origine, il était là simplement pour compléter l'AVS et pour faire en sorte qu'au seuil de la retraite, avec un peu d'épargne en plus, si c'était possible, on puisse avoir encore 60% de son dernier revenu. Mais nous verrons. Moi,
je dis les
nouveaux conseillers fédéraux, les conseillers fédéraux dans leur nouveau dicaster, et puis le cas échéant, ben, nous nous opposerons ou nous soutiendrons.
Oui, vous donnerez votre avis, on en est certain. Guy Parmelin, Jean-François Staillard, Christian Luchère, ça c'était pour le DFI. On notera, vous citiez Colette Nova, effectivement, une ancienne syndicaliste que la Bercé va retrouver dans son département. On parlait du DFI, mais il y a aussi le DFAE auquel il faut s'intéresser, Laurent Keller.
Oui, Didier Burkhalter reprend les affaires étrangères. On rejoint Vincent Bourquin à Berne. Didier Burkhalter aura passé à peine 2 ans au département fédéral de l'intérieur. Est-ce qu'on a une explication ce soir, pourquoi ce changement aussi rapide?
Oui, alors il y a des raisons politiques. Le Conseil fédéral considère qu'un socialiste à la tête du DFI parviendra plus facilement à faire passer des réformes devant le Parlement, notamment car il pourra compter sur le soutien de son parti, mais peut-être aussi sur celui du PDC et puis des nouvelles formations du centre. Et puis un collaborateur du DFI affirmait il y a quelques jours encore « Les socialistes ne cessent de critiquer notre travail, à eux de montrer maintenant ce qu'ils savent faire réellement ». Plusieurs parlementaires libéraux radicaux affirment aussi que pour l'image du parti, c'était bien que Didier Burkhalter se retrouve à la tête d'un département qui soit moins exposé que le DFI. Et puis du côté du PS, plusieurs ténors souhaitaient que les socialistes aient à nouveau un département de poids. Et par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, on sait qu'il y a eu des discussions ces derniers jours entre socialistes et libéraux radicaux. Et puis lors de ces discussions, cette rocade a été discutée.
Didier Burkhalter, il a montré des signes d'intérêt pour les affaires étrangères, pour la politique étrangère.
Oui, d'ailleurs, comme parlementaire, il était plus actif dans ce domaine que dans celui des assurances sociales. Et puis, selon son entourage, 2 sujets l'intéressent tout particulièrement, le dossier européen et puis les questions liées à la coopération et l'aide au développement.
Quels sont les principaux dossiers qui l'attendent ?
Alors, la priorité, ce sera justement ce dossier européen. On sait que les négociations avec Bruxelles piétinent, notamment en raison du différend fiscal et des questions institutionnelles. Maintenant, il faut essayer d'inventer un nouveau cadre de collaboration avec l'UE. Il y aura aussi tous les problèmes de libre circulation des personnes et puis l'adhésion à terme de la Croatie. Et puis Didier Burkhalter a toujours été favorable au bilatéral et puis il est moins pro-européen que sa prédécesseur. Ça va être aussi intéressant.
On peut dire ce soir que la politique étrangère de la Suisse va forcément changer avec Didier Burkhalter ?
Il y aura probablement moins de coûts médiatiques, peut-être aussi moins de propositions de médiation. À gauche, certains parlementaires craignent que Didier Burkhalter soit moins courageux, plus prudent que Micheline Calmiret, et donc que la politique étrangère de la Suisse devienne plus timide. On sait aussi que Didier Burkhalter n'est pas un grand communicateur, et puis en politique étrangère, la communication est déterminante, mais pas sûr que le Neuchâtelois changera son style.
Merci Vincent Bourquin.
Et Christian Luchère, vous vouliez parler tout à l'heure du DFAE. En quoi est-ce que c'est important qu'on remplace qu'un libéral radical arrive là? Qu'est-ce qu'il faut changer de l'ère Micheline Calmiret?
Alors, je crois que c'est un département très important que celui des affaires étrangères, et évidemment que je suis ravi que l'un des nôtres prenne la tête de ce département. Comme cela vient d'être dit, effectivement, en termes de politique européenne, on peut peut-être envisager un certain changement, dans la mesure où, effectivement, Didier Burkhalter est un adepte des bilatérales, et que face à une Union européenne un tout petit peu déstabilisée, en proie à des dissensions internes, d'avoir un conseiller fédéral en charge de département qui soit favorable au bilatéral est une excellente chose.
C'était la moindre, disons.
Il n'y a pas que l'Europe, il y a d'autres sujets à traiter, notamment des accords de libre-échange avec des pays asiatiques, par exemple, avec l'Amérique du Sud. Et effectivement, Didier Burkhalter a toujours montré un intérêt important dans ce dossier. Je crois que c'est quelqu'un de courageux aussi, et je suis absolument certain que ce département lui permettra plus de communiquer que le département fédéral d'intérieur. Au département fédéral d'intérieur, il y a plus de travail que de
communication. Il n'y a que des mauvaises nouvelles à annoncer aussi, les primes.
Vous avez raison, c'est un peu le sujet. Et je suis certain que Didier Burkhalter sera attaché à la neutralité de la Suisse et qu'il le montrera de manière proactive. Et la dernière chose que j'aimerais dire, c'est que Didier Burkhalter est un roman qui se trouve à une poignée de kilomètres de Genève et je sais qu'il saura défendre la Genève internationale. J'ai toujours dit que Mme Micheline Calmiret avait très bien défendu la Genève internationale et de ce côté-là, je suis certain que Didier Burkhalter sera un digne successeur.
Jean-François Staillert, que dit le socialiste? Vous avez gagné avec le DFI un département de poids, vous abandonnez le DFAE qui est quand même un tout petit peu moins important. Jean-François Staillert, est-ce que vous êtes avec nous? Non, manifestement. Jean-François Steyer nous aurait-il quitté? Bah oui, malgré tout, semble-t-il. C'est peut-être la tempête, c'est peut-être Joachim. On va mettre ça sur le dos des conditions météorologiques. Guy Parmelin, la question à vous. En tant qu'UDC, on a beaucoup attaqué Micheline Calmiret du côté de l'UDC pendant des années. C'est un peu le soulagement ce soir. C'est un radical qui reprend le département.
Écoutez, je crois qu'on jugera sur pièce. Il y a une chose qui est intéressante au sens, ça sera deux libéraux radicaux qui s'occuperont et de l'économie et des affaires extérieures et des relations avec l'Union européenne. On va pouvoir voir, par exemple, en matière de libre-échange agricole, comment ce qu'ils travaillent en commun dans l'intérêt du pays. Et ce qui veut dire, pour moi, stopper l'examen de cet accord qui n'apportera rien ni au pays ni à l'agriculture. Mais pour le reste, j'attends de juger sur pièce. Je suis quand même inquiet en ce sens qu'entre les affaires extérieures et, par exemple, la défense, où nous avons notre conseiller fédéral, j'ai toujours dit qu'il fallait avoir soit deux personnes qui tirait dans la même direction, une aux affaires extérieures et une à la défense, mais pas une qui tire dans un sens et l'autre dans l'autre sens. J'aurais préféré, par exemple, qu'Ouli Morer reprenne un autre département et qu'on mette quelqu'un qui a la même vision des affaires extérieures et de l'armée, puisque vous le savez, Mme Calmiret, à l'époque, voulait à tout moment aller intervenir pour sauver la planète et que nous étions opposés à cet aspect-là.
Mais
alors,
nous
verrons ce que M. Burkhalter veut entreprendre à ce niveau, mais la chose qui est intéressante et pour laquelle on aura beaucoup d'attention, c'est le lien qu'il pourra avoir avec le département de l'économie qui est tenu par son colistier M. Schneider-Hamann.
Jean-François Steyert, Christian Luchaire, le libéral radical, a l'air très heureux d'avoir le DFAE, les affaires étrangères, pour Didier Burkhalter. Vous dites quand même, non, le DFI, l'intérieur, c'est plus important. Le DFAE, c'est quand même un tout petit peu plus secondaire.
Non, j'ai pas dit ça. Je pense que les deux départements ont leur importance. La politique étrangère de la Suisse, dans le contexte de l'évolution européenne, revêt une importance majeure pour notre pays. En revanche, il est peut-être plus simple pour un représentant du parti radical qui a des positions un peu plus nuancées, d'avancer dans ce dossier sans être toujours immédiatement soupçonné d'avoir des positions européennes relativement fortes, alors qu'un socialiste dans cette position-là est dans un rôle un peu plus délicat, dans la mesure où, quoi qu'il fasse, on lui reproche immédiatement d'avoir des intentions différentes, notamment de la part de l'UDC, mais d'autres partis aussi. Donc le rôle est probablement un peu plus simple pour M. Burkhalter. Dans l'intérêt du pays, je pense que c'est une meilleure chose.
Jean-François Steyert, Guy Parmelin, Christian Luchaire, je vous remercie beaucoup d'être venu commenter cette rocade au Conseil fédéral. Alain Berset, 39 ans, qui reprendra le département de l'intérieur, les assurances sociales. Didier Burkhalter qui part aux affaires extérieures. Une excellente soirée à vous, messieurs.
Merci.
Merci. Merci. Au revoir.
Du mouvement en ce moment dans le paysage de la presse et des médias en Suisse, avec le rachat de la Basler Zeitung par le financier Tito Tettamanti et la création dans la foulée d'un nouveau groupe de presse annoncé il y a quelques jours. On trouve aujourd'hui un homme qui est très heureux. Cet homme, c'est le sociologue genevois Uli Windisch. Mathieu Cuplin, on vous rejoint à Genève. Indirectement, grâce à ce rachat, Uli Windisch va pouvoir concrétiser son vieux rêve, celui de créer un média de droite pour la Suisse romande.
Oui, cette fois, ça semble fait. Uli Windisch va pouvoir lancer sa plateforme Internet, une plateforme censée donner dans le politiquement incorrect et lutter contre la pensée médiatique dominante, bien trop à gauche au goût du sociologue. Alors, Uli Windisch nous l'a assuré tout à l'heure, son site Internet sera lancé tout bientôt, peut-être dès fin janvier. Il s'appellera lesobservateurs.ch et le but, c'est d'y mettre des articles et des enquêtes de journalistes, mais aussi d'en faire une sorte de grand blog amélioré avec des textes et opinions de différents contributeurs, comme des politiciens, avocats, économistes ou penseurs. Ce serait donc le bout du tunnel pour ce vieux rêve d'un média roman de droite, car on peut rappeler que cette idée est caressée depuis des mois, voire des années, par Uli Windisch, mais aussi d'autres personnalités conservatrices, comme les journalistes vaudois Philippe Barrault et genevois Pascal Descaillets. Christophe Blocher, bête noire pour beaucoup de médias romans, mais bête politique appréciée pour Uli Windisch et ses camarades, avait même été approché pour financer la naissance d'un journal, mais en vain, trop cher pour un trop petit public, selon le patriarche de l'UDC. Uli Windisch est donc revenu avec ce projet moins onéreux, celui de sa plateforme Internet. Là, il n'y a besoin que de quelques centaines de milliers de francs pour les deux premières années.
Mathieu Cuplin, pourquoi ce projet s'est-il débloqué maintenant avec le rachat de la Basler Zeitung ?
Eh bien, c'est le nouveau groupe de presse Medienvielfalt Holding, ou MVH, qui va apporter les fonds manquants. Ce groupe a été créé à l'occasion de la reprise de la Basler Zeitung par Tito Tettamanti. Le financier, qui est une vieille connaissance d'Uli Windisch, le sociologue genevois, entre au conseil d'administration de MVH. Et comme par magie, la première opération annoncée par ce groupe est l'apport de capitaux au projet d'Uli Windisch. Pour l'heure, ce dernier refuse de dévoiler le montant précis qui sera apporté par MVH, tout comme il refuse de donner les noms des contributeurs de la future plateforme. plateforme. Uli Windisch, cela joue modeste. Non, sa petite plateforme Internet ne sera pas le pendant roman de la puissante Weltwoche, si proche de l'UDC. Elle se contentera d'être le petit grain de sable dans la machinerie trop lisse du paysage médiatique roman.
Merci beaucoup. Mathieu Cuplin, en direct de Genève.
À vos côtés, Mathieu Cuplin, Vincent Maître, député PDC, et Christian Bavarel, député Vert. Avec vous, on va parler transport public. Bonsoir. À Genève. Peut-être une réaction là-dessus, Christian Bavarel. Peut-être bientôt un nouveau média en Suisse romande, où Uli Windisch, qui a réussi à trouver des fonds du côté de la base de l'Art Zeitung. On s'en réjouit. Quelle est la réaction d'un député genevois?
On se réjouit toujours du fait qu'il y ait une presse plurielle dans une démocratie, mais en même temps, les politiciens, nous sommes les plus mal placés pour pouvoir commenter ce qui se passe dans la presse. C'est pas notre job. Le job, c'est plutôt celui de la presse de commenter ce que nous faisons.
C'est aussi ce que vous faites, Vincent Maître. On ne commente pas.
J'ai l'impression, effectivement, je crois que mon collègue Bavarel a parfaitement raison sur ce point-là. Il ne nous appartient pas de commenter ce que fait la presse, à moins vraiment qu'elle dérape de façon catastrophique, mais et encore, je suis pas sûr que ce soit notre rôle.
Bon, on compte sur vous quand même dans ces cas-là, Vincent Maître, si ça nous arrive. Vous êtes avec nous, Vincent Maître et Christian Bavarel, c'est pour parler, je le disais, des transports publics à Genève.
Oui, il y a une grosse colère du côté des usagers des transports publics genevois. Une semaine seulement après la mise en place du nouveau réseau, les commentaires se déchaînent sur les forums, les gens se plaignent d'une gabegie généralisée. Une manifestation est même prévue la semaine prochaine devant le dépôt de tram. Les TPG eux-mêmes admettent que quelques réglages sont encore nécessaires.
Vincent Maître, vous criez un peu au scandale face à ce qui se passe. Vous voulez offrir, c'est ça, un mois d'abonnement gratuit, enfin le transport gratuit aux Genevois?
Alors effectivement, le Parti démocrate chrétien entend déposer incessamment sous peu une motion pour promouvoir la gratuité des transports publics jusqu'au 31 janvier 2012. Puisque le constat est accablant aujourd'hui, la mise en œuvre du nouveau réseau des TPG est un fiasco complet et que les gens ne peuvent ni admettre ni tolérer que d'un côté les prix et les tarifs des transports publics augmentent et que de l'autre côté les prestations diminuent, voire sont arrivées à un stade inexistant.
Christian Bavarel, c'est votre ministre Verte hein, qui est en charge du dossier. Gabegie totale, les transports publics à Genève?
Alors, changement, je dirais, de monde. Nous étions dans un système avec les TPG où on était sur un petit système d'une petite ville de province. Et puis, on arrive aujourd'hui à quelque chose qui va concerner une région. Donc, problème d'adaptation, problème de changement de monde et puis une grosse gabegie. Maintenant, c'est le député qui siège aux finances qui s'inquiète de la proposition de Monsieur Vincent Maître. Nous sommes en train de voter le budget en ce moment au Grand Conseil. Les choses sont un peu tendues. La proposition, j'ai juste regardé ce que ça voulait dire, ce que proposait le PDC aujourd'hui. Nous sommes à un coût de 37 millions pour offrir cette gratuité. Donc nous ne pensons pas qu'aujourd'hui la priorité est de verser 37 millions pour que cette gratuité puisse avoir lieu, mais nous reconnaissons alors très volontiers qu'il y a des problèmes aujourd'hui de mise en place du réseau. À Zurich, ils ont mis 6 mois de tests avant de changer le réseau. Où nous avons eu entre le génie civil et puis la mise en place du nouveau réseau, 2 semaines de tests de nuit pour pouvoir mettre en place le réseau. Parce qu'à Genève, nous n'avons pas décidé de mettre les moyens suffisants aujourd'hui au transport public. Il y a des volontés d'économie. Et lorsqu'on fait un petit peu court, ben c'est plus compliqué à mettre en place. Donc aujourd'hui, les TPG sont sur le pont, sont extrêmement présents sur le terrain. Mais effectivement, c'est trop court. Et les usagers, aujourd'hui, portent les conséquences du fait que ce n'est pas financé suffisamment.
Vincent Maître, vous dites fiasco. C'est pas un peu fort? Au fond, il faut laisser quelques jours peut-être aux gens de s'habituer. Parce que vous argumentez pas encore en disant fiasco. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui a été mal ficelé dans ce projet?
Mais écoutez, manifestement une impréparation totale. Lorsqu'aujourd'hui vous faites, lorsque plutôt avant-hier vous faisiez eau vive jonction en 20 minutes en transport public et que hier, jour de la mise en route du nouveau réseau, vous mettez plus d'une heure et quart, manifestement c'est un fiasco, il n'y a pas d'autre mot. Et ça a des répercussions au-delà des usagers des transports publics, puisqu'on a pu constater hier que c'était tout le réseau routier qui était également totalement paralysé par cette inopérance des transports.
Mais ça, c'est pas nouveau à Genève, hein, paralysé.
Non, mais là, ça l'a vraiment. Là, alors à ce stade-là, à ce point-là, comme on l'a vécu hier, ça c'est assez inédit. Et on se rend compte que les TPG ont une influence prépondérante sur le réseau routier. Et ça, je constate aussi juste que ça a un coût sur l'économie, puisqu'aujourd'hui, c'est à peu près, je ne sais pas combien de dizaines de milliers d'employés qui sont arrivés soit en retard à leur travail, ou soit qui n'ont pas pu se rendre à des rendez-vous. Tout ça se répercute économiquement. Alors sur le coût avancé par 37 millions par mon collègue Bavarel, je m'excuse, déjà je n'ai pas la preuve que ça coûte exactement 37 millions, Et cet argument, quel que soit le montant, est faux, puisque comme moi, il était depuis ce matin 8 heures en commission, en séance du Grand Conseil pour le budget, et que le budget 2012 des TPG est assuré et est en train d'être voté.
Christian Bavarel, quand même, toute cette perte de temps, on prend beaucoup plus de temps aujourd'hui pour se rendre d'un point A à un point B. Gros fiasco, nous dit Vincent Maître. Grosse responsabilité aussi du côté de Michel Künzler.
Alors,
et de la ville.
Problème. Alors aujourd'hui, très clairement, un problème. Je dirais les TPG ont joué de malchance. D'un côté, nous avons les événements autour de l'OMC qui sont en train de se dérouler, qui utilisent beaucoup de forces de police. Nous avions une manifestation de la fonction publique hier, plus le débarquement de la pluie et puis les débuts des événements au niveau météo.
On a fait une heure d'un quartier à l'autre, franchement.
On est tout à fait d'accord sur le constat que ça ne marche pas à satisfaction. Alors absolument, mais ça je pense que personne ne va le contester. Aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on laisse un tout petit peu de temps au TPG pour faire les réglages, pour que ces réglages aient lieu. Je suis pour qu'on fasse un bilan dans 15 jours, simplement de voir ce qui aura pu être amélioré. Donc avant de sortir des solutions, lorsqu'on a un changement d'importance de cette taille-là, c'est vraiment un changement de réseau complètement. Hein. On est passé à une autre échelle. Moi, je me réjouis de voir cette autre échelle et il va falloir régler. Il y a du boulot. Hein. Il y a vraiment des choses à régler pour que les choses puissent se dérouler de manière beaucoup plus fluide.
Je suis navré. Lorsqu'on a un changement de cette importance-là, on ne se prépare pas l'avant-veille. On a mis suffisamment de moyens. C'est des dizaines de millions qui sont passés là-dedans. On se prépare un tout petit peu à l'avance et je crois que l'usager, ça l'importe assez peu qu'il fasse beau, mauvais, qu'il y ait une manifestation à l'OMC ou devant l'hôtel de ville. Lui, ce qui l'importe, quand il paye l'abonnement au prix qu'il le paye et qu'il subit des augmentations drastiques des tarifs, ce qui lui importe, c'est que les TPG fonctionnent et soient à l'heure. Ça fait juste partie du service minimum d'une régie publique comme celle des TPG.
Vincent Maître, vous proposez la gratuité pour un mois. Pourquoi pas la gratuité pour toujours? Vieux projet cher à l'extrême gauche.
Oui, parce que là, on tomberait totalement. La gratuité pour toujours, on tombe dans une idéologie complètement fabuleuse ou fabuliste, j'ai envie de dire.
Mais, oui, fabuliste pour vous, on va s'en mettre plutôt.
Mais totalement et utopique. Et là, on aurait de vrais problèmes de fonctionnement à long terme des TPG. Là, en l'occurrence, pour un mois, il s'agit juste de faire un geste, un petit geste envers la population, de dire, c'est vrai, nous n'avons manifestement pas assuré le service minimum, on s'est trompé, ou en tout cas, on s'est mal préparé, c'est un petit geste en retour, ça ne grèvera absolument pas de façon catastrophique le budget des TPG, il n'y en aura absolument aucune conséquence, mais aujourd'hui, les citoyens sont tellement excédés de cette gabegie, que je crois que c'est la moindre des choses de faire un petit geste.
Mais en fait, on pourrait résumer ça, Christian Bavarel, en disant que finalement, bientôt, il faudra une prime pour habiter à Genève, avec les difficultés à y vivre, avec la circulation routière, on le savait depuis longtemps. Maintenant, c'est même les transports publics. Les gens qui nous écoutent, un peu dans toute la Suisse romande, en Suisse alémanique aussi, peut-être en France voisine, s'attendront peut-être à ce que les journalistes utilisent le terme que vous connaissez, j'imagine, quand vous soumettez souvent, suite Genferaille. Mais franchement, est-ce qu'il n'y a pas une manière genevoise de mener ce genre de choses pour que ça ne fonctionne pas le jour J?
Oui, nous avons un débat qui aujourd'hui est extrêmement désagréable. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse une paix des transports à Genève, qu'on essaye de trouver des solutions ensemble, de sorte que tous les usagers puissent avoir quelque chose qui fonctionne. Je rappelle, les TPG coûtent 450 millions. Hein. Leur budget, c'est 450 millions. Ils trouvent la moitié eux-mêmes avec les abonnements, l'autre moitié une subvention de l'État. Et nous avons aujourd'hui à Genève, nous n'avons pas fait les choix qu'il faut faire. Lorsque les Zurichois viennent à Genève, nous demandent mais pourquoi il n'y a pas priorité aux bus chez vous? Parce qu'à Genève, on n'a pas réussi, avec la tension que nous avons autour des transports, à faire des choix qui soient clairs. Et cette sorte de non-choix qui est permanente à Genève, qui est due à un rapport de force, qui est due aujourd'hui à certains types de comportements qu'on peut avoir à Genève, avec aussi une incivilité extrêmement forte de la part des cyclistes. Alors je le reconnais volontiers, et je le dis en premier pour ne pas avoir des ennuis avec mon ami Maître, mais en même temps avec les automobilistes qui ne sont pas aux endroits, quoi, qui circulent dans des zones où c'est interdit de circuler, avec les motos qui remontent
sur des
fils.
Quel tableau, Christian Bavarel.
Il y a une indiscipline genevoise qui est crasse et qui nous pose un gros problème avec un comportement alors de la classe politique, très clairement, et je pense que nous avons une part de responsabilité, qui n'avons pas su construire Genève ensemble. Et là, il faut que nous arrivions à changer de ce style d'opposition frontale les uns contre les autres pour faire quelque chose au service des Genevois et non pas quelque chose pour que chacun puisse avoir sa tête sur la photo pour montrer qu'il est plus pur que l'autre, ce qui n'a aucun intérêt. Ce qu'il faut, c'est que Genève puisse circuler.
On pourrait ajouter à ça, Vincent Maître, à ce tableau assez éloquent de Christian Bavarel, l'opposition ville-canton, ça c'est un peu le pompon qui parachève le tout.
L'opposition ville-canton ou l'inaction ville-canton, parce que pour ce qui est la pour qui est la paix des transports. Et le PDC, je rappelle, est évidemment pour la paix des transports. Il a voté l'initiative 144 sur la mobilité douce. On est à bout touchant, disons, sur la paix des transports. Il reste plus qu'un ou deux réfractaires. Mais pour qui est la paix des transports, il faut que les gouvernements, les autorités fassent leur travail. Or, aujourd'hui, on l'a vu avec le nouveau réseau des TPG dont on parle actuellement, que la Direction Générale de la Mobilité, qui est au département de Mme Künzler, n'a pas fait son travail et que Rémi Pagani, qui est magistrat en charge à la ville de Genève, n'a pas fait son travail non plus. Alors, on peut voter la paix des transports et des initiatives pour la mobilité douce tant qu'on veut. Si les autorités ne travaillent pas correctement et conjointement, ça ne sert à peu près à rien.
Je rajouterai simplement que le département de Marc Muller, qui s'occupe de la construction de l'infrastructure, s'est arrangé pour qu'il n'y ait pas de communication et que la paix ne soit pas faite avec la Direction Générale de la Mobilité.
Parfaitement lamentable, vous avez bien raison de le souligner.
Et ça fait beaucoup d'endroits où ça ne marche pas.
On est d'accord sur le constat assez négatif en tous les cas. Ce soir du côté de Genève, Vincent Maître, PDC, Christian Bavarel, Vert. Merci beaucoup, messieurs.
Merci à vous.
Bonne soirée.
Et on reste à Genève avec vous, Yvan Slatkin, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous aussi êtes député libéral. On prend le tram quand on est député libéral à Genève. Vous avez pu vérifier de visu.
Je prends les transports publics quand je suis à Genève. Travaillant dans le canton de Vaud, j'ai plutôt l'obligation de prendre ma voiture.
Donc vous n'avez pas subi les désagréments?
Moi personnellement, je ne les ai pas subis, mais je connais de nombreuses personnes qui ont subi les désagréments. Maintenant, je crois qu'il y a aussi une phase d'adaptation par rapport aux nouveaux... Au nouvel horaire des TPG, le nouveau réseau, et que tout ça va rentrer dans l'ordre, il faut un petit peu de patience.
Un petit peu de patience pour les Genevois. Yvan Slatkin, vous êtes à titre d'éditeur et de diffuseur aussi en direct avec nous. Vous êtes patron des éditions Slatkin, mais aussi diffuseur, hein, propriétaire à 50% du diffuseur Servidis. Alors vous avez lu, impossible d'y échapper hein, depuis hier, le patron des éditions Payot, Pascal Vandenberg, qui annonce son combat sabre au clair contre les diffuseurs. Il veut s'en passer. Il veut acheter directement les livres en France pour faire baisser les prix. Est-ce que vous êtes emporté par l'enthousiasme, vous aussi, Yvan Slatkin ?
Écoutez, emporté par l'enthousiasme, certainement pas, parce que la proposition de M. Vandenberg, en fait, c'est un combat interne dans le groupe Hachette. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les deux plus gros diffuseurs de livres en Suisse romande, que sont l'Office du Livre et Diffulivre, appartiennent à Hachette, Payot appartient à Hachette, et les diffuseurs du groupe Hachette n'ont pas joué le jeu de la baisse de l'euro. Alors aujourd'hui, M. Vandenberg, et à juste titre, essaye de trouver des solutions pour faire baisser les prix que les diffuseurs du groupe Hachette ne veulent pas faire baisser, et il essaye de passer directement en France. Donc le combat de M. Vandenberg, je le comprends. Maintenant, le souci, c'est que si vous prenez l'exemple de Servidis, qui a joué le jeu de baisser 4 fois ses prix depuis 2 ans et qui est nettement moins cher que le Fils du Livre ou Diffulivre...
Ça, c'est votre entreprise, oui.
C'est celle dont on est actionnaire. Ouais. Moi, je ne dirige pas...
Vous parlez pour votre
Servidis,
paroisse, tout à fait.
Mais ce que je veux simplement dire, c'est que nous, on représente à peu près 20% du marché, alors que le Fils du Livre et Diffulivre en représentent 80%. Donc il est certain que le consommateur ne peut pas voir les distinctions en se disant: des livres Actes Sud sont à des prix acceptables alors que des livres du groupe Hachette ne le sont pas. Donc le consommateur ne va plus en librairie, mais bon, ça touche aussi tout le commerce genevois, je tiens à le préciser. Et donc il y a un sérieux problème. Maintenant, la manière dont veut travailler M. Vandenberg met en péril toute la librairie indépendante, met en péril tout le système de diffusion-distribution de livres en Suisse romande et indirectement met donc en péril l'édition romande.
Mais pas sûr, parce qu'il affirme hein, qu'il ne laissera pas tomber les petites librairies. Au fond, lui se chargera de faire venir les livres, et puis ensuite les petites librairies pourront s'approvisionner chez lui. Enfin, il y a un souci quand même de protection là.
Oui, alors le libraire Payot va devenir distributeur de livres, donc c'est assez amusant parce que le système existe déjà hein, avec le Fils du Livre et Diffulivre. Donc on a un peu de peine à comprendre la stratégie, et je dois dire qu'à 3 mois et demi d'une votation très importante pour le monde du livre en Suisse, qui est la loi sur le prix du livre, on peut être un peu étonné par cette manière de faire. Maintenant, il faut que les acteurs, les petits acteurs, je pense aux éditions Slatkin, je pense aux petits éditeurs, je pense aux petits libraires, mais je pense aussi aux diffuseurs de moins de grande taille qui n'appartiennent pas au groupe Hachette. Il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on trouve des solutions parce qu'il y en a. Je crois qu'il est important qu'il y ait plusieurs acteurs sur le marché du livre en Suisse romande et que demain, le marché du livre soit un marché avec une offre diversifiée, avec de nombreux acteurs et qu'il n'y ait pas qu'un seul acteur qui soit Payot ou le groupe Hachette.
Mais sur le principe, est-ce qu'on peut vivre demain sans les intermédiaires dans un but de faire baisser les prix. Diffus Livre, Servidis, on peut s'en passer demain dans l'intérêt du consommateur?
Écoutez, dans l'intérêt du consommateur, si on se base que sur les best-sellers, j'ai presque envie de vous dire certainement. Parce qu'aujourd'hui, les livres qui se vendent beaucoup, on peut aller s'approvisionner en France. Mais il faut savoir que le marché du livre, c'est plus de 60 000 nouveautés par an. La part du best-seller, c'est moins de 600 titres sur ces 60 000. Donc toute la diversité de l'offre va être touchée. Donc si on part dans un schéma où on dit qu'il n'y a plus de diffuseurs-distributeurs en Suisse romande, fort est à parier qu'on va avoir une concentration de l'offre sur les best-sellers, mais qu'on va perdre en diversité. Ça, je pense que pour le monde de la culture, c'est quelque chose de dangereux.
Oui, Vance Lalkin, c'est un peu un mal suisse, les distributeurs, les intermédiaires, on le voit dans le commerce de voitures, c'est quand même ça qui fait que les prix sont très très hauts. Les gens forcément prennent leur marge au passage. Sur le fond, vous êtes libéral, c'est beaucoup mieux d'aller s'approvisionner directement.
Écoutez, c'est bien de s'approvisionner directement. Maintenant, une fois de plus, je crois que le milieu du livre est un milieu très complexe parce que vous avez énormément de titres. Hein, je veux dire, il y a énormément de diversité dans l'offre. Et si on veut pouvoir satisfaire la clientèle de manière efficace, il faut qu'on aille quand même des relais en Suisse avec des stocks qui soient présents pour qu'on puisse alimenter les librairies. Parce qu'évidemment qu'une librairie Payot ou une librairie indépendante ne peut pas avoir dans ses rayons l'intégralité de l'offre. Donc on a là face à un problème parce que si demain il n'y a plus de diffuseur-distributeur, si vous rendez à la librairie Payot à Genève, à Neuchâtel ou à Sion et que vous demandez un titre qu'ils n'auront pas en stock, si on n'a plus de diffuseur-distributeur, alors ils devront le commander à Paris, les délais de commande vont être beaucoup plus longs et la qualité du service va baisser. Donc ensuite, il faut savoir quel type de qualité de service on veut avoir, quel type d'offre on souhaite avoir. Je crois qu'on peut trouver un juste milieu et d'ailleurs, M. Vandenberg l'a dit lui-même, il veut peut-être contourner certains diffuseurs-distributeurs, mais il va garder une majorité du prix de l'ordre de 20%, c'est ce qu'il dit, c'est ce que la loi sur le prix du livre veut. Donc si vous voulez, j'ai un peu de peine à comprendre pourquoi il vient avec ces déclarations maintenant. Je pense que si la loi avait été refusée, si la loi va être refusée, alors on pourrait comprendre qu'il agisse, mais je crois que le premier combat pour le monde du livre aujourd'hui, c'est de défendre cette loi sur le prix du livre qui va permettre à tous les prix de baisser, mais qui va aussi permettre aux petits libraires de continuer à vivre et donc à l'édition romande de survivre. Et je crois qu'après, il y a un débat de fond, c'est à savoir quel type d'édition on veut demain. Est-ce qu'on veut une édition qui se concentre sur le best-seller ou est-ce qu'on veut une édition qui soit la plus large possible avec une offre la plus large possible?
Tout le monde est à peu près d'accord pour dire que le prix du livre peut encore baisser en Suisse jusqu'à 40%, ça vous y croyez?
Alors écoutez, certainement, parce que comme je vous l'ai dit, certains diffuseurs qui appartiennent au groupe Hachette, hein, qui même groupe que Payot, c'est ça qui est quand même un peu amusant.
Mais ça, là, amusant ouais.
Non mais oui, bah, écoutez, je trouve ça assez paradoxal, ouais. Parce qu'en fait il y a une guerre interne dans un même groupe. Et ensuite, c'est tous les autres acteurs qui sont en train de payer cette guerre, et j'ai un peu de peine à la comprendre. Il y a certainement aujourd'hui encore beaucoup trop d'abus au niveau du prix du livre en Suisse. La loi qui est proposée à la population est une loi qui doit permettre de faire baisser ce prix, et on est tous d'accord pour dire qu'une majoration du prix de l'ordre de 20 à 25% maximum est quelque chose d'acceptable, pour autant qu'on veut aussi avoir une qualité de
du service. Yvan Slatkin, pour conclure, on a appelé pas mal de gens cet après-midi dans ce domaine du livre en Suisse romande. Beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses au téléphone mais qui n'osent pas trop parler, et puis en particulier qui n'ont peut-être pas envie de se mettre à dos Payot et son directeur Pascal Vandenberg. Il fait un peu peur dans le milieu littéraire, dans le milieu des éditeurs, des diffuseurs.
Écoutez, je crois qu'il faut avoir peur de personne, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, Payot, c'est 35% du marché. Donc, il est certain que de venir, contredire Payot, on peut peut-être avoir des retours de bâton qui ne soient pas très sympathiques. Maintenant, moi, personnellement, j'assume. Je suis un acteur dans le livre. Je suis la quatrième génération de Slatkin active dans le livre. Je dis ce que je pense. Je crois que le public doit être informé de la complexité du sujet, mais doit être aussi informé qu'en fait, on a sur le marché aujourd'hui en Suisse romande un acteur ultra dominant qui s'appelle Hachette et que cet acteur pose quelques soucis à l'ensemble de la branche.
Il y aura toujours des livres Slatkin chez Payot, Yvan Slatkin.
Bah écoutez, Payot est un excellent client des éditions Slatkin et il n'y a aucune raison qu'on ait un problème avec Payot.
On ne vous le souhaite pas. Je vous souhaite une excellente soirée.
Mais
par contre,
merci, monsieur
Slatkin. Au revoir.
Allez, au revoir.
Et alors que la carte d'identité, le passeport suisse seront entièrement renouvelés d'ici fin 2016, on apprend aujourd'hui que parallèlement, la Confédération fabriquerait, malgré elle, de faux passeports. C'est en effet la conclusion assez alarmante qu'on pourrait tirer, Magali Philippe, en prenant connaissance de cette histoire intrigante vécue par un Neuchâtelois de 37 ans.
Oui, cette histoire, c'est celle de Mathieu, citoyen helvétique, qui désire obtenir un passeport biométrique. Celui qu'il possède est en périmé. Il se rend donc, il y a près d'un mois, au bureau cantonal des passeports, se présente au guichet et...
Alors à ce moment-là, l'employé prend un air un peu étonné et me dit « Mais vous avez déjà passé chez nous pour récolter toutes les données biométriques, photos et tout ça, il y a quelques jours. » Ça m'a un peu surpris puisque je ne l'avais pas fait. Elle a ouvert mon dossier et là, elle a constaté que sous mon nom étaient enregistrées les données de quelqu'un d'autre, donc la photo de quelqu'un qui, à ce jour, n'est toujours pas identifié, d'autres empreintes digitales, une autre signature, etc.
L'enregistrement des données de la personne inconnue correspond en fait au jour de l'appel de Mathieu pour prendre rendez-vous. Mais face à cette situation pour le moins étrange, un passeport avec des données qui ne sont pas liées à Mathieu, l'employé du bureau cantonal des passeports ne semble pas avoir été totalement surprise.
Je dirais à moitié, quand même un peu que ça se passe, mais elle m'a quand même dit que c'était la deuxième fois que ça se passait cette semaine-là. Et comme on était le mardi matin, je ne sais pas combien il y a eu de fois sur l'entier de la semaine.
Et quand Mathieu demande d'annuler la procédure pour ce faux passeport, l'employé lui répond que c'est trop tard, le passeport est déjà en production. Mathieu se résout alors à faire enregistrer ses propres données biométriques, rentre chez lui et reçoit quelques jours plus tard son passeport.
Au détail près que j'ai reçu le même jour deux passeports par la poste. Un passeport qui, autant que je puisse juger, est correct, avec ma photo, ma signature. Je n'ai pas encore vérifié que les données qui sont enregistrées dans la puce sont bien les bonnes. Et en même temps, un passeport qui est également à mon nom, avec toutes mes données en termes d'état civil, d'adresse, mais la photo de quelqu'un d'autre.
Deux passeports donc, nous avons eu accès à ces documents pour le vérifier. Deux passeports effectivement quasi identiques, même nom, date de naissance, lieu d'origine, la taille, mais avec deux photos différentes. Une erreur dont jusqu'à présent, personne ne s'est encore soucié au niveau des autorités.
Bah maintenant, ça fait près de trois semaines que j'ai ce... entre guillemets, faux passeport, et personne ne m'a contacté, probablement que l'histoire est totalement oubliée du côté de l'Office des passeports.
Alors Magali Philippe, histoire qui n'est pas complètement anodine, l'établissement d'un passeport, c'est une procédure normalement très, très rigoureuse, la protection des données, elle a clairement en jeu. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez eu des réponses du côté de l'Office fédéral de la police, qui est responsable en la matière?
Avec l'Office des constructions et logistiques, effectivement. Non, alors nous avons joint l'Office fédéral de la police qui a découvert cette affaire par notre appel. Pour l'instant, une certitude, je le cite, « ce n'est pas un problème de sécurité, de banque de données, de puces ni de production, mais certainement une erreur humaine. Une enquête est donc ouverte, nous promettons. » Et alors que selon Mathieu, un tel scénario s'était déjà produit, vous l'avez entendu la semaine de son rendez-vous, la porte-parole de l'Office fédéral de la police nous a, elle, indiqué que c'était la première fois qu'elle entendait une telle histoire. Elle conseille à Mathieu de se rendre au bureau neuchâtelois des passeports pour vérifier que ce sont bien ces données biométriques qui se trouvent aujourd'hui sur son propre document.
Étrange affaire. Merci beaucoup Magali Philippe.
Avec nous, Olivier de Scooter à 18h51 dans ce forum. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Vous êtes rapporteur spécial de l'ONU pour le droit à l'alimentation. Vous étiez à Genève aujourd'hui en marge de la réunion de l'OMC. Olivier de Scooter, on se posait une question avec vous sur le fond. Assez de principes, le libre-échange, la mondialisation, poison ou au contraire une sorte de remède contre les famines, les problèmes de la faim?
Écoutez, on a longtemps pensé que c'était un remède, sinon le remède, et en réalité on se rend compte peu à peu que c'est une erreur de raisonner ainsi. La libéralisation du commerce des produits agricoles, au fond, ça signifie mettre en concurrence les paysans du monde entier, et les plus compétitifs, naturellement, ont tout à gagner à cette mise en concurrence à l'échelle mondiale, mais il y a dans les pays en développement beaucoup de petits paysans qui ne sont pas soutenus par le gouvernement, qui ont une compétitivité relativement faible et qu'il faut aujourd'hui permettre de remettre le pied à l'étrier, qu'il faut soutenir, et ceci suppose une réglementation du commerce international, ceci suppose des mécanismes qui permettent de les protéger, notamment contre la volatilité des prix et contre la concurrence déloyale qui leur est faite à partir des agriculteurs beaucoup plus soutenus, des pays riches en particulier.
Vous êtes entendu sur ce point par l'OMC, par Pascal Lamy, la direction?
Non, malheureusement pas autant que je le voudrais. Si vous voulez, l'argument consiste à dire que pour lutter contre la faim, il faut favoriser l'efficience dans la production, c'est-à-dire s'assurer que la production alimentaire se fasse là où elle est la plus compétitive. Et le problème, c'est que cela condamne à la ruine ou à sortir de l'agriculture une très grande masse de petits paysans dans les pays en développement qui sont aujourd'hui au nombre de 500 millions, qui nourrissent environ 2 milliards de personnes au total. Et ces personnes-là, on ne peut pas tout simplement ignorer qu'elles existent et faire comme si elles pouvaient migrer vers les villes sans dommages considérables pour les sociétés concernées. Et donc, au fond, c'est une vision qui me paraît peut-être un tout petit peu trop technicienne. La question aujourd'hui de la lutte contre la faim n'est pas la question de produire au moindre coût là où on produit de la manière la plus efficace. La question est vraiment de savoir comment on va augmenter les niveaux de vie dans les campagnes, comment on va lutter contre la pauvreté rurale.
Major, merci d'être venu faire passer cet appel ce soir en direct, Olivier de Scooter. Vous étiez en direct de Genève. Vous êtes rapporteur spécial de l'ONU pour le droit à l'alimentation. Il y avait la réunion de l'OMC aujourd'hui au niveau ministériel et vous y étiez. Je vous souhaite une excellente soirée, monsieur de Scooter.
Bonsoir.
Au revoir.
Et le fils du Shah d'Iran, Reza Pahlavi, aimerait faire comparaître l'ayatollah Ali Khamenei devant un tribunal international. Reza Pahlavi, qui aurait dû être l'héritier du trône iranien, s'apprête à soumettre aux membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU une plainte pour tenter de faire juger le dirigeant religieux iranien pour crime contre l'humanité. Démarche qui s'inscrit dans la suite de la révolution verte réprimée en 2009 en Iran et puis dans la perspective évidemment du printemps arabe. Reza Pahlavi, le fils du Shah d'Iran.
C'est un dossier longuement préparé par des activistes politiques, par des avocats. Ce dossier sera attaché par ma lettre, qui est cette lettre de plainte, à laquelle j'appelle la communauté internationale de nous venir en aide pour porter plainte devant la justice internationale, la CPI, contre Ali Khamenei sur les crimes contre l'humanité, en citant directement Ali Khamenei, le guide suprême, finalement la personne responsable pour tout ce qui se passe chez nous.
Vous avez assuré que l'Iran de 2009 a inspiré le printemps arabe. Pourquoi, sur quelle base? Et est-ce que on peut dire que la réussite des mouvements dans les pays arabes pourrait aussi contribuer maintenant, en retour, à aider l'Iran?
C'est toujours un effet réciproque, bien entendu, mais je vous dis que dans des cas particuliers, l'utilisation, grâce à la technologie actuelle de SMS, de Bluetooth et de réseaux sociaux, font la preuve que ce qui s'est passé en Iran, surtout la campagne de 2009, a été extrêmement aidé par l'utilisation de ces réseaux sociaux. Donc, je dois dire que par le témoignage des activistes, par exemple au Caire, qui eux-mêmes ont témoigné le fait que c'est grâce à ces réseaux sociaux qu'on a pu organiser beaucoup des manifestations, que vous voulez, qu'on a pu finalement aboutir à cette écoute et cette organisation. Aujourd'hui, par exemple, prenez l'exemple de la Syrie, on voit très bien que c'est de même façon, ou au moins, les Syriens essaient de faire apprendre à la communauté internationale ce qui se passe chez eux. C'est un peu ce qui se passait chez nous, malgré tous les blocages, malgré toutes les censures, malgré toutes les limitations. Donc, je pense que c'est dans un sens organisationnel qu'il y a cette inspiration, mais c'est aussi sur le fond. C'est sur la question d'une mobilisation de société qui n'en peut plus et qui réclame sa liberté et son droit de vote.
Est-ce que vous croyez, c'est ça, que les Iraniens, en voyant ce qui s'est passé, ce qui se passe en Tunisie, en Égypte, au Yémen et ailleurs, vont encore davantage réagir qu'en 2009?
La question qui se pose réelle, c'est pas d'être motivé, ils sont déjà motivés. La vraie question, c'est est-ce qu'ils ont le mécanisme d'appui? Depuis l'incarcération des dirigeants de la Révolution verte en Iran, il y a un sens d'être, si vous voulez, orphelin. Il faut qu'il y ait quand même des structures qui continuent ce combat, qui puissent amener cette dirigeance, et il faut qu'il puisse avoir un accoudoir. C'est pourquoi j'ai fait allusion à la nécessité d'une création d'un conseil national, parce que il serait impossible pour nous d'organiser un tel conseil à l'intérieur de l'Iran, vu la répression. Je pense que l'exemple où les Iraniens suivent de beaucoup plus près, c'est peut-être la Syrie. Parce qu'après tout, l'axe Damas-Téhéran a toujours été un élément clé, mais ça montrerait que s'il y a une chute de Bachar Assad, ça serait un grand coup négatif pour le régime et ça donnera encore plus d'espoir à l'Iran et aux Iraniens.
Est-ce que le dossier nucléaire fait passer en second et fait un peu oublier les droits de l'homme en Iran?
Je suis content que vous citez cela parce que nous avons toujours cru que la question du nucléaire, en tout cas pour nous Iraniens, est secondaire et que de toute façon, si on règle le problème en Iran, de démocratiser notre pays, c'est-à-dire au-delà de ce régime, le reste des problèmes, y compris le nucléaire, sera réglé de facto. C'est-à-dire que la menace nucléaire qui existe actuellement, la militarisation nucléaire, c'est-à-dire armes de destruction massive, est un grand danger pour le monde et une grande inquiétude avec ce régime en place. Tandis qu'un Iran démocratique qui sera contre ces armes va régler le problème de cette menace nucléaire et donc la menace de prolifération qui deviendra encore plus ampleuse. Il faut inverser ce processus dès que possible. C'est pourquoi je pense que le dossier des droits de l'homme et liberté en Iran devrait prendre le devant, car ce n'est pas seulement dans l'intérêt de l'Iran, mais dans l'intérêt du monde et de la paix internationale.
Reza Pahlavi, interrogé par Frédéric Castel.
Et à 18h58 dans ce forum, c'est l'heure de prendre des nouvelles de la venteuse météo du jour avec Sébastien Dupéré.
Après la journée tempétueuse que nous avons eue, les conditions vont un peu se calmer ce soir et cette nuit. À l'arrière de cette violente perturbation, une atmosphère beaucoup plus froide s'installera sur nos régions. Dans la nuit, la limite pluie neige s'abaissera jusqu'en plaine, dans un régime d'averses éparses. Cette situation perdurera demain avec toujours quelques averses sur le plateau, plus fréquentes le long des Préalpes. Des éclaircies pourront commencer à apparaître en plaine. Les températures ne dépasseront pas les moins 1 à 3 degrés, alors qu'à 2000 mètres, le mercure chutera à moins 8 degrés. Le vent faiblira à toutes les altitudes. Notons qu'avec les nombreuses chutes de neige de ces derniers jours, le risque d'avalanche restera marqué en montagne. Dimanche, nous conserverons un temps froid avec quelques averses de neige et des températures toujours comprises entre 0 et 2 degrés. Cette atmosphère hivernale, avec par moments des flocons jusqu'en plaine, se maintiendra en début de semaine prochaine. Les températures avoisineront toujours le 0 degré.
Infotrafic RSR.
Sur l'autoroute Vevey-Martigny, suite à un accident, de forts ralentissements sont signalés entre Montreux et le tunnel de Glion en direction du Valais. Les secours et le dépannage devraient durer jusqu'à 19h30 environ. Suite à une surcharge de trafic, des colonnes sont toujours signalées sur l'autoroute Lausanne-Genève entre Merin et le poste de douane de Bardonnay en direction de la France. En sens inverse, entre Genève Aéroport et Gland en direction de Lausanne. Et sur l'autoroute Vevey-Martigny, entre Ride et Comtet en direction de Sion. En raison de la tempête qui sévit toujours sur notre pays, l'autoroute de Lémont-Bienne est toujours fermée dans les deux sens entre le tunnel de Moutier et la jonction de Moutier-Sud. De nombreuses chutes d'arbres et des inondations sont signalées et provoquent la fermeture de plusieurs routes dans le canton de Vaud, Neuchâtel, également Fribourg, Jura et Jura-Bernois. Et puis en Valais, les chaînes sont désormais obligatoires sur plusieurs tronçons. Le risque d'avalanche provoque un grand nombre de fermetures de routes. Voilà qui était complet. Merci beaucoup d'avoir suivi cette édition de Forum qui se termine à l'instant. Bernard Combes et Fabrice Araldi à la technique. Excellente soirée à tous. Il est 19h sur la première.